Jean-Philippe Lana, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes président de JPL Finance. On va parler avec vous de marché et de perspectives après ce Brexit. On s'est souvent vu avant l'été et souvent il s'est passé des choses difficiles sur les marchés. Là, on peut dire que ça y est, ça a commencé avec le Brexit. Quelle est votre vision aujourd'hui des marchés? Qu'est-ce qui coince?
Bon, écoutez, j'ai une vision extrêmement simple. Je pense que tous les problèmes qui arrivent, que ce soit des problèmes économiques, des problèmes politiques ou autres, tiennent à un seul phénomène, c'est la faiblesse de la croissance des économies développées. Nous vivons dans un monde où la croissance est faible et en plus, elle va rester faible. C'est-à-dire que la croissance potentielle, comme on a l'habitude de l'exprimer des différentes économies développées, est coiffée, capé par des éléments structurels qui sont, bon, on peut les énumérer les uns après les autres. Bon, le premier, c'est le vieillissement démographique. Le deuxième, c'est la dette et la charge de la dette. Le troisième, c'est peu ou prou le taux de chômage et la précarité des conditions de vie des différentes populations. Et puis vous avez aussi, qui ajoute à la situation délicate ou difficile dans laquelle nous sommes, la montée en puissance de l'économie numérique qui est un facteur de bouleversement et qui pèse, je dirais à la fois pratiquement, parce qu'elle supprime, quoi qu'on en dise, elle supprime des emplois, et elle pèse économiquement parce que ça permet de faire des gains de productivité et autres. Et donc vous avez, à partir de là, un problème majeur qui est un problème de croissance, et puis vous avez des dérivés ou des problèmes secondaires qui sont des problèmes politiques, le Brexit. Vous pouvez avoir demain des problèmes sur les marchés d'actions, vous pouvez avoir toutes sortes de problèmes qui sont en fait liés ou dépendants d'un seul facteur qui est la faiblesse de la croissance.
Alors on avait eu, bien sûr, cette crise de 2007-2008 et on a eu quand même beaucoup d'actions des banques centrales, on a eu les gouvernements, vous avez parlé de l'endettement, les conséquences de l'action des gouvernements. On disait certes qu'on n'allait pas retrouver la croissance d'avant cette crise financière, notamment aux États-Unis, mais on ne pensait pas à une japonisation de l'économie, par exemple, européenne, ce qui est un peu ce que vous évoquez là.
Oui, non, mais ça, on pouvait en parler. On est en tout cas, c'est évident qu'on est tous dans une situation de japonisation des économies, puisqu'elles ont toutes les mêmes caractéristiques. Le Japon, c'est l'extrême. C'est-à-dire que le vieillissement de la population au Japon, c'est un extrême par rapport à d'autres pays, mais vous prenez des pays en Europe, vous prenez l'Allemagne, même la France, elle s'en sort sur le plan démographique parce qu'elle bénéficie d'immigration. Elle est aussi dans une situation où le vieillissement de la population pose problème. La charge qui est représentée par ce phénomène, la charge liée aux dépenses sociales, aux dépenses d'aménagement et autres, c'est un phénomène qui pèse extrêmement lourd. Alors en 2008, on a utilisé une arme dont on est en train de voir la fin, le bout, c'est-à-dire la baisse des taux d'intérêt. C'est sûr que maintenant, il y a des taux négatifs. Alors, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, on peut être encore plus négatif que négatif, mais à un moment ou à un autre, il va y avoir une limite. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que toutes les dettes d'État, aujourd'hui, on prend l'ensemble des dettes des pays développés inférieurs à 7 ans, elles sont toutes négatives. Bon, à quelques exceptions près, je ne vais pas vous dire, la Grèce est encore un peu positive, les pays d'Afrique, mais ce n'est pas des pays développés, sont positifs. Enfin bref, par contre, tous les pays développés sont tous négatifs. La France est un exemple extraordinaire. Je veux dire, l'emprunt d'État français à 10 ans est à 0,20 ou 0,25 de rendement. La dette à moins de 7 ans est négative partout. Bon, c'est une anomalie économique, mais c'est bon, la conséquence de l'action des banques centrales. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que l'action des banques centrales, ce n'est pas qu'elle va s'arrêter. Elle va continuer, mais elle a déjà eu un effet extrêmement faible. Et là, elle va avoir un effet totalement nul. Donc, on est ce qu'on appelle dos au mur. Alors, pour prendre une expression anglaise, puisque
c'est
un peu à la mode,
oui.
« We are going nowhere », on va nulle part. C'est-à-dire on est dos au mur et on va nulle part. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Je suis ni apprenti sorcier, ni homme politique. Heureusement pour moi. En tout cas, la décision, le futur est entre les mains des hommes politiques. Mais il peut se passer n'importe quoi sur le plan politique. Le Brexit, c'est un exemple du n'importe quoi. On peut très bien, moi je pense que la chance de l'élection de Donald Trump aux élections américaines est très plausible, elle est même plus que plausible. Je pense qu'en France, quand on regarde les choses, regarde les chiffres, je veux dire du bon côté, enfin du bon côté, objectivement, quand vous ajoutez le Front National et l'extrême gauche, vous avez presque la majorité. C'est-à-dire, c'est quand même extrêmement,
c'est parti traditionnel,
c'est,
complètement.
C'est quand même extrêmement grave. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Moi, je suis un analyste de marché, je regarde les choses telles qu'elles sont. Je regarde simplement qu'aujourd'hui, on a imprimé les assignats, que la monnaie n'a pas beaucoup de valeur en tant que telle, d'ailleurs elle a un taux négatif. Bon, il faut en tirer des conséquences pratiques. Alors,
il y a bien longtemps de ça, puisqu'on parle de l'Europe, on disait pour le capitalisme, pour se, entre guillemets, se réformer ou trouver une solution à l'économie, et on faisait des guerres.
Voilà, aujourd'hui, heureusement qu'aujourd'hui c'est un phénomène impossible, mais c'est sûr que aujourd'hui c'est normalement là, c'est une situation qui s'imposerait pratiquement. C'est-à-dire que vous avez des pays qui ont des excédents, d'autres qui ont des déficits. Normalement, c'est un sujet de conflit majeur. Vous avez des pays dont la population vieillit, vous avez d'autres dont la population est jeune. Prenez, vous savez, la guerre des croisades, pour prendre un exemple simple, c'était une guerre de population entre des excédents de population jeune et des excédents de population âgée. Surtout un déséquilibre à l'époque entre les hommes et les femmes. Bon. On ne sait pas ce qui peut arriver. On n'est pas là pour jouer les apprentis sorciers, pour dire ça va se passer comme ci ou ça va se passer comme ça.
Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette, pour l'investisseur, clairement, qu'il se mette en tête que là, il est sur une période de croissance molle ou faible croissance, et la période, la durée, il n'a aucune idée de la durée. Donc il faut qu'il s'habitue à ça et qu'il aille.
Il y a deux choses qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas la durée du phénomène, malheureusement, si on ne fait rien, elle va être longue. La deuxième chose qu'on ne connaît pas, c'est les remèdes que les médecins politiques vont nous donner pour essayer de régler ce problème. Ça, on n'en sait rien. Alors, ils prient tous, ou ils espèrent tous, en un retour de l'inflation. Je dirais heureusement ou malheureusement, il y a l'Allemagne, qui aujourd'hui est le coffre-fort du monde, et je dirais, elle tient la clé. Et donc, comme elle tient la clé, elle n'ouvre pas le coffre-fort. Et donc, tant qu'il y a l'Allemagne et des pays qui lui sont un peu ressemblants, ben, il n'y aura pas d'inflation. Parce que bon, le moyen de créer de l'inflation, c'est de créer un impôt négatif. Hein, et donc, de laisser courir le déficit public, mais autrement que ce qu'on fait jusqu'à présent. Parce qu'aujourd'hui, on a un déficit public qui est là pour financer le courant. Là, on fabriquerait un déficit en créant artificiellement de la demande à travers un impôt négatif. Je pense que ça viendra, puisque déjà, bon, quand on vous parle d'hélicoptère monnaie, de distribution de billets et tout, c'est une forme d'impôt négatif, en tout cas d'une forme de distribution. Ça viendra, mais ça n'est pas encore mûr pour ça.
Alors, pour l'investisseur, on a vu des investisseurs qui diversifient à tour de bras, en allant vers du private equity, en allant vers de l'immobilier, en diversifiant au maximum les classes d'actifs.
Je pense que c'est cosmétique, hein, pour moi, tout ça. Private equity, l'intérêt du private equity, c'est que l'économie numérique est en train de prendre une place de plus en plus grande et que ça va s'accroître. Hein, puisque aujourd'hui, je crois que l'économie strictement numérique, ou en tout cas liée à l'Internet, doit représenter en quelque part autour de 10% du PNB, on ira beaucoup plus loin. Donc il y a de la marge, donc il y a des entreprises qui vont se créer, et donc il y a un intérêt de ce côté-là. Sinon, la seule chose qui présente un intérêt, c'est ce qu'on appelle, grosso modo, les valeurs de rareté ou les valeurs refuges. Bon, pour moi, la valeur numéro un, celle que je mets en avant, j'ai commencé à être très agressif sur le sujet en juin d'année dernière, donc j'avais un peu d'avance, mais incontestablement, je veux dire, il faut avoir de l'or sous toutes ses formes. Je veux dire, il peut y avoir un mouvement sur l'or physique et sur ses dérivés qui peut être extraordinaire. C'est-à-dire que, bon, on est peut-être très loin des cours qu'on va connaître dans les 2, 3, 4 ans qui viennent. Bon, moi, je m'y suis intéressé, ça valait autour de 1 200 $ l'once, on est retombé à pratiquement 1 000.
Il y en a qui disent 1 400, maintenant,
300, 1 400. Non, mais je pense qu'on peut voir 2 000, 3 000, 4 000. Hein. C'est pas...
Mais ça, c'est de la peur, normalement, quand on arrive à...
Non, c'est pas de la peur. Non, c'est ce qu'on appelle l'or monétaire. C'est-à-dire que vous avez une monnaie qu'on ne peut pas, qu'on personne ne contrôle, il y a des stocks, il y a une production extrêmement faible, la production, 3 000 tonnes par an, donc c'est extrêmement faible. par rapport aux besoins mondiaux. Quand on pense que les bourses ont perdu 2000 milliards de dollars dans la journée de vendredi, on n'est pas quand même dans des niveaux très importants. Bon, on peut voir, comme on a vu le Dow Jones passer de 6700 à 18000. Hein. C'est-à-dire, peut-être qu'aujourd'hui, on est à l'envers de ce qu'on a connu dans les années 80. Dans les années 80, on avait des taux très élevés et des marchés très bas. Les taux se sont effondrés pour être négatifs et les marchés ont beaucoup monté. L'or à l'époque n'intéressait pas grand monde. On est peut-être à l'envers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est peut-être à un moment où l'or va passer de 1300 dollars à 3000, 4000. Je ne sais pas, je n'ai pas de niveau. Mais je pense qu'acheter aujourd'hui les orifères, c'est un cadeau, c'est un don du ciel. C'est, bon, depuis le début d'année, c'est vrai qu'on a fait à peu près entre 80 et 100% sur les orifères. Okay. Mais on est encore 80% en dessous du niveau d'il y a 5 ans. Donc il y a de la marge. Maintenant, à côté de ça, vous achetez un peu d'immobilier, un peu de valeur dite de père de famille, les L'Oréal, les Air Liquide, des choses comme ça. Et puis bon, vous attendez que ça se passe et puis vous ajustez en fonction des décisions politiques.
Ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Philippe Lannes d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, Didier, avec plaisir.